au bout de la corde. Jaël se joignit à un groupe de jeunes gens, deux hommes et quatre femmes, occupés à bavarder, assis autour d'une des tables que les serviteurs avaient dressées près des bassins. On souriait beaucoup tout en buvant du thé et en mangeant des petites pâtisseries. La conversation tournait autour de l'amour, bien sûr, et des sentiments délicats de la carte du tendre. L'une des convives, une jeune femme blonde aux yeux rieurs, au sourire charmant, demanda soudain à Jaël. « Monsieur, mes amis et moi nous posions une question. Croyez-vous qu'un homme puisse changer ?»« Et que voulez-vous savoir, belle amie ?» Une autre jeune femme, brune celle-ci, intervint. « J'ai moi-même un soupirant qui est un homme de la plus détestable réputation quant à son comportement avec les femmes qu'il séduit et abandonne. » Il vient maintenant me voir, me promettant de m'aimer d'un amour sincère et fidèle, me disant qu'il a changé. Croyez-vous qu'un homme puisse changer ? Se reconnaissant bien sûr dans ce portrait, Jaël se contenta de sourire. Un jeune gentilhomme à la moustache frisée prit le risque de répondre. L'amour est une force assez grande pour donner de la constance dans ses actes et dans ses propos à l'homme le plus insouciant et le plus menteur. Tu n'es pas d'accord, Cydalise ? Cydalise était la demoiselle blonde qui avait lancé le débat. Elle avait la peau claire, le sourire facile. Elle portait une robe bleu pâle au corset serré qui cambrait sa taille et faisait ressortir les rondeurs de sa poitrine. Regardant à travers ses longs cils, elle répondit. « Je ne crois pas aux belles paroles. »« Oubliez les paroles, intervint Jaël, n'écoutez que leur musique, et faites confiance aux gestes, au langage du corps qui ne dit rien et ne pense pas moins. » Il s'empara d'une main gantée de blanc et la porta d'un geste vif à ses lèvres. Cydalise la retira en riant. Tout le monde rit. Une autre demoiselle s'exclama. « Si nous jouions, j'en ai assez des bavardages, ils ne mènent à rien. » On se leva dans un froufrou de tissu et de rire. On suggéra un jeu de Colin Maillard. Et l'une des jeunes femmes eut les yeux bandés. Après quelques minutes de jeu, Jaël se retrouva à son tour avec le bandeau sur les yeux. Les joueurs et les joueuses étaient cette fois-ci bien moins taquins que plus tôt dans l'après-midi. En vérité, on se laissait assez facilement attraper, on s'abandonnait quelques instants dans les bras du joueur aveugle, et on le laissait vous caresser le visage, avec peut-être un peu plus de langueur que le jeu ne l'aurait demandé. Voilà ce que Jaël recherchait. Cette excitation légère des sens, rendue plus intense encore par l'absence de la vue, ses odeurs, ses peaux, ses contacts furtifs. Tout cela l'agaçait avec délice. Le jeu se finit, il faisait chaud. On transpirait légèrement, quelques gouttes de sueur se glissaient sur les gorges des filles. Les hommes avaient ouvert leurs gilets. D'un commun accord, le groupe se dirigea vers la table où étaient disposées les boissons, où il se dispersa. Jaël se retrouva seul en compagnie de la jolie femme blonde nommée Cydalise. Se trompait-il, ou bien s'était-elle laissée attraper plus de fois qu'elle n'aurait dû ? Elle se pencha vers lui et lui glissa à l'oreille, sur le ton de la confidence ou de la conspiration. « Si je vous montrais les fontaines ?» Les fontaines, pourquoi pas ? Il offrit son bras à Cydalise et ils descendirent vers la forêt. Le soleil commençait à décliner. Quelques minutes de marche amenèrent Jaël et sa compagne dans une petite clairière tout à fait semblable à celle où se trouvait la fontaine aux Trois Lions. Cette fontaine-ci était différente, composée d'un bouquet de jets d'eau arrondis. Cydalise sourit à Jaël et lui jeta un regard en coin. Soudain, les jets devinrent beaucoup plus puissants, projetant de l'eau à plusieurs mètres de hauteur et faisant retomber une pluie de gouttelettes glacées. Cydalise, qui était plus près de la fontaine que Jaël, se recula en poussant des cris aigus. Jaël, lui, avait réussi à échapper au gros de l'averse. Il essuya de son mouchoir les gouttes qui constellaient la gorge de la demoiselle. Elle ne protesta qu'à demi. Après un peu de marche, elle la mena à une autre fontaine, plus fantastique que la première. L'eau dévalait le long des marches d'un demi-amphithéâtre de pierre, orné de créatures marines. Tout en haut, majestueux avec son trident à la main, le vieux dieu Atlant de la mer, entouré de naïades, surveillait la course des flots. Le soleil déclinant jetait des reflets rouges sur le bronze des statues. « Celle-ci se nomme la fontaine de Triton, » dit Cydalise, très à l'aise dans son rôle de guide. « La précédente se nommait les deux couronnes. » De cette fontaine, Elle l'entraîna à une autre encore, une fontaine composée de moulins de bronze vert éjectant des jets d'eau par leurs moyeux. Le passage de l'eau faisait tourner les pales des appareils, projetant encore 1000 gouttelettes par lesquelles la jeune femme se laissait asperger. La tête penchée en arrière, elle les faisait couler sur son visage. La fontaine suivante représentait un échiquier incliné sur lequel se trouvait une seule pièce, une tour brisée couchée sur le flanc, et l'eau glissait le long du plateau, le couvrant d'une fine pellicule transparente et mobile. C'était bien sûr la fontaine de la tour brisée, et elle fit penser Jaël à une arcane de tarot. Ils allèrent enfin auprès de la fontaine dite de la forêt enchantée, des arbres de métal qui se dressaient sur un sol de galets. Quand on passait près d'eux, des petits jets jaillissaient parfois d'entre vos jambes et il fallait courir pour les éviter. Si Dalise riait, Jaël la poursuivit. L'un près de l'autre, ils regardèrent l'eau s'écouler des feuilles d'un étrange palmier et des bulles de savon sortir en chapelet irisé du tronc. De son mouchoir, Jaël essuya encore le cou de la jeune femme qui se laissa doucement aller contre lui. Durant cette longue visite, il ne s'était pas lassé de regarder la démarche de sa compagne et la courbe de sa nuque et le dessin de ses hanches et les ombres de sa gorge. Elle l'emmena jusqu'à la rivière qui surgissait plus haut dans le parc pour aller se perdre un peu plus loin dans un petit lac. Les berges en étaient bien aménagées, on pouvait s'y baigner ou s'y promener en barque. Lentement, ils marchèrent jusqu'à la source, un bouillonnement qui jaillissait d'un chaos de rochers soigneusement arrangés. La nuit tombait, il faisait de plus en plus sombre, ils étaient au bout de leur promenade. Jaël s'approcha de Cydalise et l'enlaça. Elle ne se recula pas, ni maintenant, ni quand il commença à lui caresser le cou. Elle avait fermé les yeux, s'abandonnant au calme de ce crépuscule. Jaël se plaça alors dans son dos et continua à la caresser, posant ses mains sur les hanches de la jeune femme, sur son ventre, puis remontant vers sa poitrine qu'il commença à libérer du carcan de la robe. Elle gémissait et se laissait aller contre lui, l'encourageant même du geste, l'aidant quand il remonta les jupes pour pouvoir glisser la main sur ses cuisses. Ils entendirent du bruit le long du chemin, quelqu'un venait. Cydalise se rajusta précipitamment et ils allèrent se réfugier sous le couvert des arbres. Un serviteur, remontant le cours de la rivière, plantait de loin en loin des tiges de cuivre hautes de 3 pieds, en haut desquelles étaient posées des lampes qui illuminaient ainsi le cours de la rivière. Cydalise respirait profondément, la poitrine encore à demi découverte. Se penchant sur elle, Jaël lui souffla. Ne connais-tu pas un endroit plus confortable? Il y en a de nombreux. Le serviteur repartit. Elle prit alors la main de Jaël, ils redescendirent la rivière, suivant le chemin tracé par les lampes. Le reflet des flammes dans l'eau rendait l'endroit féerique. Elle la mena ainsi jusqu'au lac artificiel. Près d'un ponton était amarrée une demi-douzaine de barques, mais ils ne s'attardèrent pas, car Cydalise l'entraînait vers un petit kiosque au mur de croisillons de bois blanc. Ici, je crois qu'il n'y a encore personne. Viens. Elle poussa la porte et entra dans la petite pièce ronde. Jaël s'attendait à trouver à l'intérieur des bancs et peut-être une table, mais le kiosque était meublé en tout et pour tout d'un lit rond de bois blanc qui en occupait le centre, un lit sans couverture d'aucune sorte, dédié à l'amour plutôt qu'au sommeil. Un dais de tissu léger pendait depuis le centre du plafond pour tomber en formant une sorte de tente conique. Jaël trouva cela absolument ravissant. Il referma la porte du kiosque et alla s'allonger sur le lit. Cydalise l'y rejoignit immédiatement et l'embrassa avec passion. La brève marche ne lui avait pas fait oublier les caresses de Jaël. Ce dernier répondit à ses baisers, mais il voulait autre chose et l'attira au-dessus de lui. Et elle lui fit l'amour ainsi, le chevauchant, la poitrine découverte, la coiffure défaite et le regard chaviré. M'aimez-vous, Jaël? Il sourit sans répondre. Elle insista. Moi, je vous aime en tout cas. Elle se serra contre lui et l'embrassa encore. Depuis combien de temps es-tu ici, Cydalise? Je ne sais plus. Je crois que j'ai oublié. La nuit était tombée. Un groupe d'invités était descendu depuis le haut du jardin. La nuit était tombée. Un groupe d'invités était descendu depuis le haut du jardin ou le château. On avait installé des chaises au bord du lac. Certaines personnes étaient montées sur les barques. Jaël les voyait au travers des croisillons. Ils faisaient un concours de poésie. Elle ne se souvenait pas de la durée de son séjour ici. Comment cela se pouvait-il? Et elle le regardait, les yeux grands ouverts. J'espère que si je me fais enlever par un dragon, vous viendrez me sauver. Je n'y manquerai pas, charmante princesse, répondit Jaël en l'embrassant de nouveau. Ils traînèrent encore un peu, l'un contre l'autre. Ils chercheraient Mademoiselle Belle plus tard dans la nuit, demain peut-être. Mais Cydalise se leva soudain. Je m'en vais. Je dois participer à un jeu.
Quel jeu?
Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas venir? C'est impossible. Jaël sentit soudain l'appréhension dans la voix de Cydalise. Il n'en dit rien et l'embrassa. Bon jeu alors, et bonne nuit.
Bonne nuit.
Elle sortit du kiosque. Jaël laissa passer quelques battements de cœur, puis sortit à son tour et la suivit. Des gens qui se trouvaient près du lac, personne ne paraissait les avoir aperçus. Cydalise marchait vite, évitant les chemins les plus fréquentés. De nombreux invités descendaient vers la rivière qui devait être un lieu de rencontre privilégié durant la soirée. En suivant Cydalise, Jaël eut soudain l'impression de ne plus marcher sur la scène, mais dans les coulisses de l'endroit. Elle arriva dans une partie du parc moins fréquentée, puis entra dans une des innombrables clairières parsemant la forêt. Au centre de celle-ci se dressait un petit pavillon, éclairé à l'intérieur, devant la porte duquel attendaient deux hommes vêtus de noir et portant de ces masques baotiens, blancs et très géométriques, que l'on retrouve beaucoup lors du carnaval. Ce costume leur donnait une apparence inquiétante. L'un d'eux dit d'une voix sévère: « Tu es en retard.
« Je vous promets que cela ne se reproduira plus.
» L'encadrant, les deux hommes la poussèrent dans le pavillon et entrèrent à sa suite. Jaël se glissa jusqu'à l'une des fenêtres et observa par les interstices entre les volets. L'intérieur était composé d'une pièce unique, un petit salon. Cydalise s'était avancée jusqu'au centre, les deux hommes aux inquiétants masques blancs restant près de la porte. Tout en entendant leur voix, Jaël n'en distinguait pas les paroles. Il devait avoir ordonné qu'elle se déshabillât, car elle commença à enlever ses vêtements. Son visage exprimait une inquiétude craintive, excitante et charmante. Jouait-elle la comédie pour leur plaisir? Quand elle fut nue, un des hommes sortit d'un coffre une grande pièce de tissu rouge, une longue tunique faite d'un tissu si léger qu'il ne dissimulait pas grand-chose des charmes de la jeune femme. Elle dénoua ensuite ses cheveux, et l'homme qui lui avait donné la tunique la coiffa rapidement. La peur qu'elle semblait ressentir la rendait plus attirante encore. Les hommes ressortirent du pavillon, emmenant Cydalise avec eux. Jaël les suivit de loin. Ils parcouraient maintenant des chemins déserts. Dans la nuit, le parc prenait des airs plus inquiétants. La clairière sur laquelle ils débouchèrent était sans doute la plus étrange que Jaël ait vue. En son centre trônait sur une estrade une imposante table de pierre, longue comme un homme et haute du tiers. De l'autre côté de cette table, un groupe était rassemblé. Une vingtaine d'invités assis sur des bancs de pierre, portant tous une cape noire par-dessus leurs habits d'été, ainsi qu'un masque blanc similaire à celui des deux hommes qui entouraient Cydalise. Ce costume donnait à cette assemblée une apparence effrayante, d'autant plus qu'aucune autre lumière que celle de la lune et des étoiles ne venait éclairer la scène. Les deux hommes en noir poussèrent Cydalise sur la table et attachèrent ses poignets et ses chevilles aux quatre coins de celle-ci. Elle n'allait tout de même pas jouer la scène du sacrifice de la Vierge. Jaël sourit malgré lui. Était-ce encore une distraction, juste un peu plus scabreuse que la chasse aux papillons? Cydalise est trop inquiète pour que ce soit seulement cela. Un des officiants prit la parole. Jaël recula sous les feuillages. Nous voici réunis pour punir Cydalise. Il laissa le silence renforcer l'effet de ses paroles. Elle a désobéi aux règles. Nous devons l'offrir à la nuit. Nouveau silence, et il commença à chanter, repris en chœur par le public. Jaël crut reconnaître une vieille chanson religieuse en vieil atlan, une de ces mélopées que les servants des Lara fredonnaient lors de leur travail funèbre. Tout ceci était proprement ridicule. Il devait intervenir avant que ces fous ne blessent Cydalise. Mais comment? Il était seul, ils étaient nombreux. Comment interrompre la cérémonie? Jaël se plaisait bien dans ce parc. Il ne voulait pas enfreindre les règles, pas tout de suite en tout cas, pas pour interrompre un jeu idiot, certainement sans danger. Certainement sans danger. Ils continuèrent leur chant pendant quelques instants et quelque chose se produisit. Le crissement des graviers, des branchages qui craquaient. Une ombre surgit, empruntant le chemin par lequel Jaël, la jeune femme et ceux qui l'escortaient étaient arrivés. Une ombre rapide, très sombre. Un homme vêtu d'une grande cape noire, sûrement, oui, c'était cela, quelqu'un qui venait personnifier la nuit à laquelle ces fous voulaient offrir la jeune femme. L'ombre s'approcha de la table de pierre, elle avançait vite, la toile du manteau claquait comme s'il n'y avait personne à l'intérieur, comme si ce n'était là que de la fumée, du vent. Du vent portant un manteau. Oui, c'était insensé, Jaël maudit son imagination. Et l'ombre se pencha sur Cydalise, s'allongeant contre elle, comme pour l'embrasser. La jeune femme cria, puis l'ombre commença un mouvement régulier, accompagné par les gémissements de Cydalise. Jaël, fasciné, regardait cette étrange copulation qui se déroulait là, juste sous ses yeux. Il ne pouvait vraiment dire si les cris de Cydalise exprimaient la douleur ou le plaisir, ou peut-être les deux. Il avait oublié toute volonté d'intervenir. Il regardait, hypnotisé, excité et voyeur. Cydalise poussa un long gémissement qui mourut dans l'aigu. L'ombre se releva, puis s'éloigna et disparut entre les bosquets aussi vite qu'elle était apparue. Mais la cérémonie n'était pas terminée. Les spectateurs continuaient de chanter, comme ils avaient chanté pour accompagner l'accouplement de la jeune femme et de la nuit. Et un des spectateurs se leva, un homme qui alla prendre la place de l'ombre, s'allongeant à son tour sur Cydalise, la prenant à son tour. Et un à un, les autres hommes de l'assemblée le suivirent et l'imitèrent sous le regard et sous les chants des autres membres. Les spectatrices, car il y en avait, prirent leur place dans ce défilé. Certaines faisaient siffler des verges qui claquaient contre la peau de la victime et provoquaient torsions et gémissements. D'autres se contentaient de porter la main sur elle. Les cris que poussait Cydalise laissaient deviner des gestes intimes et violents. Et Jaël regardait sans bouger. Il ne quittait pas des yeux le corps de Cydalise qui se tordait sous les assauts successifs des adorateurs de la nuit. Elle gémissait, protestait, appelait. Mais ses tentatives pour se libérer ne la rendaient que plus attirante. La cérémonie dura longtemps. Et bientôt les spectateurs furent tous passés. Alors les chants cessèrent et tous les assistants quittèrent la clairière dans le plus grand silence, y compris les deux hommes qui avaient amené Cydalise ici, qui s'étaient contentés de rester debout de chaque côté de la table de pierre durant tout l'événement. Ils avaient laissé la jeune femme attachée sur la table. Elle s'avança à son tour dans la clairière et s'approcha de Cydalise. Elle était presque inconsciente, la tête gisant en arrière. Du sang avait coulé dans son cou. Ses cuisses et ses hanches étaient rayées de griffures peu profondes. Il était attiré par ce corps abandonné. Il sentait en lui un désir malsain, l'envie de s'allonger contre elle et de la prendre à son tour sur la table de pierre, le désir de la faire gémir et se tordre. Après tout, il était comme ses invités qui avaient participé à la cérémonie. Tout ce qu'il désirait en restant ici, c'était les plaisirs de la chair. Cydalise ne l'avait intéressé que pour son corps, que pour ses seins et ce ventre qu'il avait accueilli. S'il était ainsi semblable aux autres, pourquoi ne prenait-il pas son plaisir à son tour? Pourquoi ne l'apprenait-il pas? Il se pencha sur elle, commença à retrousser la tunique rouge légère qui descendait sur ses cuisses, puis il renonça. Il ne le ferait pas. Si je me fais enlever par un dragon, viendrez-vous me sauver? Elle savait ce qui allait lui arriver, bien sûr, et elle lui avait demandé de l'aider. Il ne l'avait pas fait. Il avait simplement regardé, attiré et excité par ce qu'il voyait. Rapidement, il détacha les cordes qui attachaient Cydalise à la table. Puis il partit d'un pas pressé. Il avait peur du regard qu'elle aurait porté sur lui si elle avait repris conscience. Il était temps de quitter cette fête. Mais il n'en fit rien.